Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraoui, effectivement avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous allons revenir sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Oufatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Et bonsoir Yacouba Ouidraoui et bienvenue au Bénin.
Merci. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous parlons ce soir de la Coupe du Monde de Basketball 2023, bien évidemment. Nous allons aussi parler du verdict, du tour préliminaire des matchs interclubs de la CAF. Et bien évidemment, nous allons aussi faire le bilan des mondiaux d'athlétisme disputés à Budapest, en Hongrie. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Basketball, pour commencer donc, avec le mondial masculin en Indonésie, au Japon et aux Philippines, l'Afrique tente de se remettre en marche. Ses représentants, lits ce lundi, se sont tous imposés. Amine Birouk fait le point. On va revenir bien sûr plus tard sur Amine, mais en attendant, eh bien, on va retrouver Jules Valentin Ngoué, impressionnant lors du premier match perdu contre Porto Rico. Alors Jules, le Soudan du Sud a battu la Chine 89-69.
Il faut dire que le Soudan du Sud est réellement la cerise sur le gâteau de cette représentation africaine qui est très honorable pour le moment et qui nous donne satisfaction. Et donc, ce score contre la Chine, ce large score contre la Chine, contrebalance un peu la courte défaite que cette équipe a eue contre une équipe pourtant du haut, souvent, disons, de la première partie du tableau en ce qui concerne le basketball mondial, le Porto Rico. Et donc, finalement, contre la Chine, et là, les Soudanais ont remis leur pendule à l'heure. Et tout doucement, ils s'avancent, mon Dieu, comme étant les leaders de cette représentation africaine cette année.
Impressionnant quand même pour une équipe qui participe à ce mondial-là pour la première fois. Alors, Élisée, victoire également pour le Cap Vert 81-75 devant le Venezuela.
Et bien évidemment, puisque à chaque fois quand on prend ces rencontres, on voit clairement que l'Afrique démarre très bien. Je parlais des représentants africains, que ce soit le Cap Vert ou encore le Soudan du Sud, eh bien, ces nations démarrent à chaque fois bien la rencontre. Et c'est à l'issue du dernier quart-temps que tout commence par chambouler. Cette fois-ci encore, on a vu une équipe capverdienne qui a longtemps mené, mais au début du troisième quart-temps, on a senti un peu de fébrilité, eh bien, l'entraîneur a dû remobiliser sa troupe et puis on a vu que un dernier quart-temps les a permis quand même de surmonter et de bien contrer les attaques des Vénézuéliens. C'est vrai que le Venezuela, c'est pas une grande équipe de basketball, mais une chose est sûre, ça pourra quand même réconforter les Capverdiens qui se sont bien relancés afin de se qualifier pour le tour suivant.
Amdine, eux aussi, ils peuvent se réconforter. Les Ivoiriens ont disposé de l'Iran 71-69. La Côte d'Ivoire est toujours en vie dans cette compétition.
Tout à fait, Yacouba. Les Ivoiriens qui avaient perdu quand même le premier match contre l'Espagne, comme vous le savez, l'Espagne fait partie quand même des monstres du basketball mondial au niveau des hommes. Les Ivoiriens se sont bien repris en s'imposant face à l'Iran sur le score de 71-69. Je pense que c'est un très bon résultat. Maintenant, il faudra quand même négocier quand même le troisième match et ce sera face au Brésil. Le Brésil qui compte comme la Côte d'Ivoire une défaite et une victoire. Donc si on sait que la première place est presque assurée par l'Espagne, donc pour se qualifier, il faut bien battre cette équipe du Brésil pour pouvoir s'en sortir. Mais pour le moment, les Ivoiriens sont en train d'assurer.
Bien évidemment, la première place de ce groupe est assurée par l'Espagne qui a gagné ce soir. Alors hier, l'Angola a signé la première victoire africaine dans ce mondial de basket en battant les Philippines 80-70. Par contre, ça cale une seconde fois pour l'Égypte qui s'est inclinée devant le Monténégro 89-74. Jules, les Égyptiens se doivent de sauver l'honneur.
Bien sûr, les Égyptiens se doivent de sauver l'honneur, même s'il faut le rappeler, et qu'ils ne rencontrent pas des nations faciles. Et là, nous avons le Monténégro, c'est quand même le grand foyer de l'ancienne Yougoslavie qui était la base du basketball la plus haute après celle des États-Unis. Bon, donc, ce score contre un des héritiers de cette Yougoslavie n'est pas, disons, qu'une surprise en tant que telle. L'Égypte joue à son vrai niveau. Donc, on peut aussi remarquer que les Égyptiens sont partis à cette compétition sans avoir un très grand nombre de joueurs jouant à l'extérieur, comme certains pays comme le Cap-Vert, par exemple, qui profitent largement de sa diaspora. Donc, attendons voir, on aura sûrement une première victoire de l'Égypte.
Les Sud-Soudanais restent troisième de leur poule B derrière Porto Rico et la Serbie et devront donc tout donner contre les Serbes mercredi pour espérer voir le tour suivant. Les Cap-Verdiens sont aussi troisième de leur poule et affronteront la Slovénie toujours mercredi lors de leur dernier match de groupe. Et puis les Ivoiriens sont troisième aussi de la poule G avant leur dernière rencontre de groupe contre le Brésil mercredi. Alors Élisée, est-ce qu'il y a de l'espoir de voir des équipes africaines au tour suivant?
Oui, je dirais oui. Surtout l'Angola, d'abord. L'Angola qui a longtemps dominé le basketball sur le continent avec de très bons joueurs issus de son championnat et d'autres qui sont allés du côté des États-Unis pour monnayer leur talent. L'Angola qui joue la République dominicaine, c'est vrai que le premier match a été difficile pour les Angolais, mais les deux derniers peuvent quand même lui permettre de se tirer de cette difficulté afin de valider son titre. Et maintenant, le Sud-Soudan, il faut le dire, compte sur son Américain qui est en train de faire forte sensation dans cette Coupe du Monde. Donc, ça va être un peu difficile contre la Serbie, puisque Jules vient de le dire, la Serbie qui parle de la Serbie et qui parle de la Yougoslavie, vous le savez très bien, ce sont des équipes qui ont remporté par le passé ce trophée. Donc, les Sud-Soudanais vont devoir batailler très fort pour pouvoir passer devant la Serbie. Et puis, la Côte d'Ivoire contre le Brésil. Le Brésil, c'est vrai que, outre le football, dans les autres disciplines aussi, surtout le volleyball, on sent que, les Brésiliens aussi ont de la valeur à revendre. Donc, face aux Ivoiriens, où on a vu Solo Diabaté aujourd'hui, qui a fait montre de toutes ses capacités, de tout son talent, ça va être une partie difficile, mais pas impossible, puisque, entre Brésiliens et Ivoiriens, une équipe doit passer ce premier tour.
En attendant, les deux premiers de chaque groupe donc sont qualifiés pour le tour suivant. L'équipe africaine est la mieux classée dans cette Coupe du Monde, arrachera son ticket pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Paris. C'est l'enjeu pour ces pays africains, selon Amine Birouk.
Donc les équipes africaines entrent de plein pied dans la compétition après avoir connu un premier faux pas, mais il va falloir le reconnaître, l'admettre. Il y a une différence de niveau entre le basketball en Europe et aux États-Unis par rapport à ce qui se pratique au niveau des sélections africaines. Mais il y a une phase de consolation qui aura lieu. Si jamais nous n'arrivons pas à qualifier la moindre sélection pour le tour final, il va falloir se battre pour la première place de nation africaine ou la place de meilleure nation africaine qualificative pour les Jeux Olympiques. Je pense que c'est l'objectif à la fois de la Côte d'Ivoire, du Soudan du Sud, de l'Égypte, de l'Angola et du Cap-Vert, qui est la plus petite nation en termes de population et de surface à avoir participé à une Coupe du Monde. Mais elle possède un joueur grand par le talent, grand par la taille, à savoir Walter Tavares, le pivot du Real Madrid. Il y a d'autres stars qui sont là, notamment au niveau de la sélection du Soudan du Sud, qui est drivé par l'ex-joueur NBA, Lou Holding, ex-joueur des Chicago Bulls et des Los Angeles Lakers. Et aujourd'hui, le talent en Afrique existe. L'Afrique regorge d'éléments talentueux. Avec un minimum d'organisation et de structure, il y a moyen d'aller dans les prochaines éditions titiller les grandes nations.
Les États-Unis, eux, sont assurés de voir le deuxième tour après leur succès 109-81 dans le groupe C face à la Grèce, tout comme l'Espagne, tenante du titre après sa victoire contre le Brésil 96-78. Ces deux candidats à la victoire finale rejoignent la Lituanie, le Monténégro, l'Allemagne, la Lettonie et le Canada. Amdine, pas de surprise à ce niveau?
Non, pas de surprise. Si on regarde ce qui se passe, les favoris sont en train quand même de passer. Il n'y a que la France qui a été éliminée dès le premier tour Comme vous le savez, les Français, hein, ils sont vice-champions olympiques, mais ils ont été battus par le Canada et la Lituanie. C'est une immense désillusion pour les Français qui faisaient partie quand même des équipes qu'on voyait quand même pour gagner ce titre. Mais malheureusement, les Français vont rentrer à la maison. Les autres ont assuré, je pense qu'à part l'élimination de la France, il n'y a pas de surprise. Les grandes nations du basketball mondial sont en train d'assurer Yacouba.
Alors, Jules, parlant justement de l'élimination de la France, c'est un grand tollé, hein, en France d'ailleurs, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que vous comprenez cela? Que les autorités et tout le monde s'indignent.
Bien sûr, puisque l'équipe de basketball de la France, à côté de celle de handball et celle de football, sont des véritables fleurons depuis quelques années. Et dans les compétitions internationales, ce sont des équipes qui accumulent des trophées ou alors des podiums. Alors, donc pour cette Coupe du Monde, beaucoup de joueurs étaient, disons que, dans la dernière ligne droite de leur carrière, et donc c'était pratiquement presque la dernière, et il y avait certains autres joueurs qu'on lançait pour, en quelque sorte, commencer à préparer la génération suivante. Donc c'est une équipe en pleine mutation qu'on a retrouvée en France, et disons qu'on a retrouvé à la Coupe du Monde. Et comme cette équipe française, pendant les matchs amicaux, a eu des victoires, et souvent des victoires faciles, je crois qu'il y a un entraîneur très renommé qui le disait en football, que les défaites servent parfois plus que les victoires pendant les périodes de préparation. C'est le cas également pour cette équipe de basket.
Football à présent, le tour préliminaire des matchs interclubs de la CAF a délivré son verdict le week-end écoulé. En Ligue des Champions, le Afia de Conakry, auteur d'un nul 2-2 à Dakar contre Génération Foot, valide son ticket pour le tour suivant. Amdine, ce n'est malheureusement pas passé, en tout cas pour vous, pour le club sénégalais dans ce derby ouest-africain.
Oui, vous avez raison, hein. C'est une élimination cauchemardesque, hein, pour Génération Foot qui avait de l'ambition d'intégrer les phases de poule, mais comme vous le savez, après un nul obtenu à Thiès après un nul obtenu à l'extérieur 0-0, on pensait pouvoir quand même bien négocier cette seconde manche, mais malheureusement l'équipe de Afia a obtenu un précieux nul, hein, puisque les joueurs de Conakry ont tenu en échec les champions du Sénégal sur le score de 2-2. Il faut le dire, Yacouba, que le but marqué à la 87e minute par les Guinéens sur une frappe en très lourde du capitaine a pesé lourd sur la balance, puisque après 87 minutes de jeu, Génération Foot était qualifiée parce qu'il menait par 2-1. C'est vrai que les Guinéens avaient ouvert le score à la 15e minute, mais Génération Foot avait réussi à renverser le match en égalisant à la 50e et en marquant un deuxième but à la 64e minute. Mais malheureusement, ils voulaient gérer et ils ont raté beaucoup d'occasions. Et les Guinéens en ont profité pour égaliser. Et ce but vaut son posant d'or, puisque ce but permet à cette équipe de Afia de Conakry de poursuivre l'aventure. Quand aux Sénégalais, ils vont s'arrêter, comme c'est le cas pour beaucoup de clubs sénégalais. Il y a vraiment un problème entre les clubs sénégalais et les compétitions africaines concernant la CAF, Yacouba.
Bien évidemment, il y a un gros trou, hein, entre les compétitions de clubs, hein, et l'équipe nationale, en tout cas au Sénégal, et ça se voit. Ça passe, hein, pour Farah de Rabat, qui a écrasé 7-0 les Togolais de l'ASCO de Kara. On retrouve tout de suite Amine Birouk.
C'était une démonstration de force de l'équipe de l'ASFAR. On peut dire que les militaires qui avaient pêché par manque d'efficacité au match aller à Lomé, ne l'emportant que par 1-0, mais en vendangeant énormément d'occasions de but, ont pu se ressaisir lors du match retour à Marrakech sous une chaleur assez impressionnante. L'équipe entraînée par le Tunisien Nasser Dinebi a montré un tout autre visage face à un adversaire qui s'est liquéfié complètement dès la première mi-temps, concédant 4 buts, perdant un joueur pour une agression assez stupide, excusez-moi du terme. Et puis l'entraîneur tunisien a laissé au repos quelques-uns de ses cadres en deuxième mi-temps, mais Ceux qui sont rentrés dans la deuxième période ont continué le job, permettant aux Phares de l'emporter sur le score de 7-0. C'est la deuxième victoire la plus importante de l'histoire du club militaire en Coupe des Champions, la première remontant à leur deuxième participation en 1985 contre les Gambiens de Ports Authority. Et à l'époque, l'équipe des Phares était allée remporter le premier titre du football marocain en compétition africaine des clubs. Ça remonte à l'époque de la glorieuse équipe des Phares qui constituait l'ossature du Maroc à Mexico 86. Il va falloir maintenant confirmer dans une quinzaine de jours avec le deuxième tour préliminaire, et cette fois-ci ce sera une toute autre histoire, une toute autre paire de manches face à la formation tunisienne de l'Étoile Sportive du Sahel qui a éliminé les Algériens de Constantine avec 2 victoires en aller et en retour, 2-0 en Algérie et 1-0 à Rabat.
Qualification aussi pour 1er de Agosto, tombé de l'AS Vita Club de Kinshasa, de l'ASEC d'Abidjan qui a battu 2-0 Coton FC du Bénin Élysée.
Oui, un match plié au retour à Abidjan, puisque à l'aller, les deux équipes se sont séparées sur le résultat nul et vierge, 0-0. Et comme le Sénégal, Yacouba, il faut le dire, le Bénin aussi n'aura aucun représentant au second, puisque en Coupe CAF aussi, on a été éliminé par les Marocains de Fuse Rabat. Vous imaginez le Bénin qui est en train de faire un effort considérable pour faire monter son football, l'État qui met énormément dans la construction des infrastructures. Un championnat dit professionnel, mais vous imaginez, il n'y a aucune organisation au sein des clubs. Coton, le club force, le club le plus riche du Bénin qui n'arrive pas à passer une équipe d'ASEC d'Abidjan dont l'effectif a été renouvelé à 90%. Vous imaginez donc, il y a un problème qui se passe au niveau de ce football local dont les autorités vont vite se reprendre afin de permettre à ce football qui babucine depuis tant d'années, puisque depuis la création des interclubs de la CAL où il y a la phase finale, un seul club béninois a pu accéder en phase de poule, il s'agit de ESAE, il y a de cela 3 ans.
Même score de 2-0 en faveur de l'AS Real de Bamako sur le terrain de l'autre Coton, celui des Garoua. Les Maliens disputeront leur ticket pour la phase de poule contre les Mauritaniens de Ouagadougou qui ont écarté les Libyens dans la Ligue Tripoli. Et puis l'autre représentant malien, nous sommes cette fois-ci en Coupe CAF, sera aussi au second tour. Le stade malien de Bamako a laminé les Libériens de Ouattanga 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Un score qui n'a pas du tout emballé l'entraîneur du club de Bamako, Sekou Sek, qu'on écoute tout de suite.
On a raté les occasions, pas possible. La seule chose, encore je vous dis, je retiens, on s'est qualifié. On va essayer de se corriger avant le prochain match. Je pense qu'ils vont comprendre, qu'à ce niveau de la compétition, on n'a pas le droit de se déconcentrer. Je pense qu'on a des armes vraiment costauds, capables de relever n'importe quel défi. Donc on va travailler dans ce sens.
Sekou Sek Dibako, entraîneur donc du stade malien de Bamako, au micro de notre correspondant dans la capitale malienne, Siaka Traoré. Ça passe aussi pour les Burkinabés de l'Étoile filante de Ouagadougou, opposés aux Sénégalais de Casasport, Amdine, en Coupe CAF, comme en Ligue des Champions avec Génération Foot, on le disait. Casasport ne verra pas le tour suivant.
Oui, l'Étoile filante qui avait quand même réalisé un bon match, un but partout lors de la première manche, a bien géré cette seconde manche, puisque ce match s'est terminé sur un score nul et vierge 0-0 qui qualifie quand même cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou. Il faut dire que les Sénégalais ne doivent pas prendre qu'à aimer, puisqu'ils avaient la possibilité de décrocher cette qualification lors de la première match jouée au Stade Ladior, car non seulement ils avaient la possibilité de battre cette équipe de l'Étoile filante, puisqu'ils menaient par 1-0, mais l'égalisation des joueurs de l'Étoile filante a été quelque chose qui a pesé une nouvelle fois sur la balance, mais également le pénalty raté. La 89e minute, les Sénégalais avaient raté un pénalty, et voilà, après ce nul, le Casasport est éliminé. Je l'avais dit, c'est un constat amer pour les clubs sénégalais, un vrai problème avec la compétition interclub. Il va falloir qu'on, Sénégal, qu'on s'arrête un peu pour voir qu'est-ce qui explique ce désamour entre les clubs sénégalais et cette compétition, car au moment où les sélections sénégalaises, comme vous l'avez dit tantôt, écrasent quand même le continent, les clubs sénégalais peinent à sortir de la sous-région, donc il y a véritablement un problème, mais cela ne va pas m'empêcher de vous féliciter, Yacouba, car c'est votre représentant qui passe pour le second tour, Yacouba.
Merci Amdine. Alors l'aventure s'arrête là aussi hein, pour les Béninois de Lotto Popo, sorti par Fils de Rabat 3-0 à l'aller et 2-0 donc au retour. Élisée le disait, hein, c'est bis repetita donc pour les clubs béninois. Aucun ne passera le premier tour de ces deux compétitions comme l'année dernière. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, l'émission revient dans quelques secondes. De l'athlétisme à présent avec la fin hier des championnats du monde à Budapest en Hongrie. Après 9 jours de compétition, le continent africain s'en est tiré avec une moisson de médailles de 24 au total. En tête, le Kenya avec 10 médailles, puis l'Éthiopie 9. Le Burkina Faso avec une médaille, la première hein, en or grâce à Hugues Fabrice Zango triple saut. Alors Jules, quelle appréciation d'ensemble hein, faites-vous de ces mondiaux côté représentant africain?
Non, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un renouvellement de cadre et c'est très heureux parce que généralement, quand on a une génération qui est en train de nous donner du bonheur, on se demande quels sont ceux qui vont les remplacer. Alors, quand on voit ces jeunes-là, les en Ouganda, au Burkina Faso, et revenir au premier plan, ça nous fait plaisir. Je crois que l'Afrique est sur la bonne voie, comme d'habitude, en ce qui concerne l'athlétisme.
Voilà, ce qui est bien dit donc de la part de Jules, on l'a dit, hein, ces mondiaux d'athlétisme ont connu beaucoup de sensations, du Burkinabé Hugues Fabrice Zango au triple saut, à l'argent, hein, de la sensation botswanaise Letsile Tebogo, 20 ans seulement, est arrivé deuxième, du 100 mètres masculin. Il y a eu de forts moments, on se souviendra aussi hein, du Marocain Soufiane El Bakali, de nouveau titré sur 3000 mètres steeple, Amin Birouk.
On attendait le duel entre Bakali et Girmain. C'était le match revanche pour Girmain qui avait perdu ses deux précédents duels face aux champions olympiques et champions du monde marocain. C'était lors des Jeux olympiques de Tokyo et lors du mondial de Eugene. Et on se disait que cette fois-ci peut-être serait la bonne pour l'Éthiopien qui venait de battre le record du monde du 3000 mètres steeple. C'était sans compter sur les qualités de stratège de Bakali qui a préparé minutieusement la compétition et surtout cette course finale où il a laissé l'Éthiopien s'épuiser. Le champion marocain a contrôlé la course, il était dans une certaine réserve, il n'a pas pris la moindre initiative, mais il a surtout répondu aux attaques tranchantes du champion éthiopien qui, à 800 mètres de l'arrivée, se voyait gagner la médaille d'or. Le Bakali a résisté et puis il a pu réussir son enchaînement habituel à l'approche de la dernière ligne droite, c'est-à-dire le passage sur la rivière d'eau, accélération, dépasse son adversaire, réussit à enchaîner sur le dernier ou les derniers obstacles avant de franchir victorieusement la ligne d'arrivée. Le Bakali, c'est quand même un champion qui a réussi, un sans faute depuis les 3 dernières années avec le titre olympique à Tokyo, les 2 derniers championnats du monde à Eugene et à Budapest, en attendant peut-être d'être consacré une nouvelle fois champion olympique à Paris. Ce serait le premier champion marocain à avoir réussi à gagner 2 médailles d'or olympiques sur 2 distances ou sur 2 compétitions olympiques différentes. Hichem Gerouz lui ayant réussi à gagner 2 médailles d'or lors de la même Olympiade à Athènes en 2004 sur 1500 et 5000 mètres. Le Bakali, c'est un champion humble, un Stakhanovich du travail, quelqu'un qui a réussi en quelques années à développer une qualité de compétiteur, de stratège, une vision de la course qui fait de lui aujourd'hui le champion incontestable et incontesté du 3000 mètres steeple.
Voilà, le champion incontesté, incontestable donc du 3000 mètres steeple, bien sûr selon Amin Birouk. Au classement général, hein, il faut rappeler que les États-Unis viennent en tête, suivis de la Jamaïque. Vous l'entendez en même temps que moi, Sporama qui s'achève ici. Nous allons donc refermer ce numéro. Merci à nos consultants, Élisée Mkwatine, depuis Boïcon au Bénin, Amin Birouk, depuis Casablanca au Maroc, le doyen Jules Valentin Ngwe, qui était en direct donc depuis Libreville, dans la capitale gabonaise, et puis Amdine Si, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Merci à vous en tout cas, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Lionel Gaïma. Je suis Yacouba Ouédraogo. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, dans quelques secondes, vous aurez une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon qui est déjà en place. Au revoir.